antenne, Dominique les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mantelines. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on non la considère pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'école Y à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien nous avions prévu au départ de vous faire une émission en direct avec quelqu'un de Nantes qui est investi dans la lutte contre l'aéroport, justement cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pour l'instant on n'y arrive pas, mais enfin peut-être qu'on va y arriver. Alors par rapport à cette lutte, on peut peut-être donner un certain nombre de nouvelles. Hein. Vous savez que vendredi, samedi prochain, il y a une manifestation très importante, le 17 novembre, dont le but de cette manifestation est de réinvestir le terrain, et entre autres au niveau des gens qui étaient là-bas, qui se sont fait expulser, eh bien il s'agirait de refaire en sorte qu'ils puissent bien reconstruire ce que les flics ont déconstruit. Alors par rapport à la mobilisation, moi j'ai sous les yeux un appel de la Confédération paysanne, qui est intéressant, qui dit, d'ailleurs je vais vous lire un peu les passages, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes en ce moment est crucial pour le monde paysan et aussi pour notre syndicat. La Confédération paysanne et tout particulièrement les jeunes soulignent depuis plusieurs années que l'accès à la terre est un sujet essentiel pour l'avenir de l'agriculture paysanne car il conditionne les possibilités d'installation de milliers de paysans et paysannes en devenir. Voici une lutte d'envergure nationale portée par une base solide de paysans, de citoyens et de jeunes dont beaucoup souhaiteraient s'installer, qui allie une véritable radicalité dans son discours, qui rejoint celui de la CONF à plusieurs niveaux, contre l'artificialisation des terres, pour la relocalisation de la production alimentaire, contre la malbouffe et l'agriculture industrielle, pour la souveraineté alimentaire, pour une gestion des terres basée sur leur usage et non sur la propriété, etc. Et des mesures et des méthodes créatives de résistance pacifique. Voilà, alors la Confédération paysanne, donc son secteur jeune, apparemment essaye de mobiliser, puisqu'ils savent que pour eux, c'est important.
Alors oui, on espère qu'on va essayer d'avoir notre camarade, puisque on voulait un petit peu essayer d'avoir une perspective politique à la fois des enjeux de la lutte et puis surtout de la manifestation de samedi. Donc ça va être un rendez-vous quand même qui va être assez important. Sous plusieurs aspects, puisque va y avoir normalement une invitation à venir de partout. En Champagne-Ardenne, pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un départ de bus de Charleville-Mézières, et que sinon, il y aura également tout un tas de covoiturage ou de départ collectif, etc. Il y en a également de Paris, il y en a également de Toulouse pour les auditeurs toulousains. Donc va y avoir vraiment un rendez-vous, un moment important de cette lutte de Notre-Dame-des-Landes ce samedi 17 novembre. Donc effectivement, hein, tant pis pour Gérald, c'est pas grave. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il est évident que la situation a changé par rapport tout d'abord au aux premières tentatives d'expulsion, hein, depuis maintenant 3 semaines, on l'a dit à de multiples reprises ici avec les auditeurs qu'on avait au téléphone. On a eu un élargissement de l'audience de cette lutte, à tel point d'ailleurs que maintenant il y a une certaine récupération de la part des politiques institutionnelles. Par exemple, on voit comment les verts locaux et les politiciens locaux s'embranchent. Malheureusement, s'ils pouvaient s'embrancher, ça serait plutôt drôle, mais s'engouffrent dans les petites brèches pour pouvoir jouer le jeu politicien. Il n'y a qu'à se souvenir, effectivement, de ce que pouvait dire le porte-parole des Verts locales sur les squatteurs, entre guillemets, les habitants de la ZAD, de cette zone à défendre, donc les gens qui ont occupé les maisons de manière sans droit et sans titre. Et normalement, il devrait y avoir Mélenchon également, qui voudrait venir aux dernières nouvelles, alors que le Parti communiste français local est bien évidemment extrêmement pour, même national d'ailleurs, mais extrêmement pour cet aéroport, et que par ailleurs, sauf évidemment erreur de ma part, parce que je ne recollectionne pas les déclarations de Mélenchon, mais on n'a eu aucun, j'ai jamais entendu quoi que ce soit sur l'aéroport, hein. Mon acolyte me confirme, mais je crois pas avoir déjà entendu quelque chose sur l'aéroport en particulier, puis sur l'aménagement du territoire de manière générale. Non, toujours pas. Bon, bah, de toute façon, à mon avis, on n'aura pas notre camarade. On va réessayer de l'appeler, mais bon, tant pis. Ce que je propose, Camille, éventuellement, c'est qu'on laisse la parole aux gens de la ZAD et qu'on réécoute l'appel à manifester. Donc voilà un appel qui a été enregistré par les gens de la ZAD.
Face aux expulsions, manifestations de réoccupation, pour reconstruire contre l'aéroport, fourches, poutres, planchettes, clous et outils en main, rendez-vous le 17 novembre dans la matinée, dans un bourg proche de la ZAD.
La lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a cessé de prendre de l'ampleur au cours des dernières années. Entre autres initiatives, un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Il y a un an, face aux menaces croissantes sur les différentes maisons, cabanes et potagers, des habitants et habitantes de la ZAD et collectifs solidaires appelaient à une manifestation de réoccupation en cas d'expulsion.
Depuis le mardi 16 octobre, l'offensive redoutée a commencé. Les 1800 hectares de la ZAD ont été envahis par 1200 policiers. Ceux-ci se sont attaqués petit à petit aux maisons et cabanes occupées, qu'ils ont détruites et emportées minutieusement, pièce par pièce, hors de la zone, pour ne rien laisser qui puisse servir aux occupantes. Les occupantes et toutes celles et ceux qui les ont rejoints sur place ont résisté, barricadés, réoccupés. Ensemble, nous avons tout fait pour enrayer les machines de destruction et bloquer les mouvements policiers. Nous sommes toujours là !
Notre détermination était renforcée par une grande vague de solidarité aux quatre coins de l'Hexagone et au-delà. Manifestations quotidiennes à Nantes et dans diverses villes, ravitaillement et soutien matériel, actions sur les représentations du PS, de Vinci et consorts, constructeurs de l'aéroport et broyeurs de nos vies.
Si la plupart des maisons en dur ont déjà été expulsées, ainsi que quelques cabanes, de nombreuses autres habitantes demeurent dispersées dans les bois, les champs, dans les arbres. De nouvelles constructions sont déjà lancées. Outre les occupantes, des habitantes et paysannes sont toujours menacées de devoir dégager de la ZAD dans les mois à venir. Autant dire que cette tentative d'expulsion XXL est partie pour durer. Les gros malins de la préfecture ont officiellement intitulé leur opération militaire César. À nous de leur prouver que la résistance face à l'aéroport est effectivement irréductible et que seront finalement des faits irridicules.
César patauge, on ne lâche rien et on est toujours là.
Au-delà de l'appel à rejoindre la zone et à poursuivre les actions solidaires dans les semaines à venir, nous confirmons aujourd'hui qu'une grande manifestation de réoccupation aura bien lieu le samedi 17 novembre 2012 au départ d'un des villages proches de la ZAD.
Après ce premier round d'expulsion, nous aspirons à un moment de mobilisation large, constructive et offensive, partagée par les différentes composantes de la lutte. Occupantes, agricultrices, habitantes du coin et d'ailleurs, associations et groupes solidaires. L'objectif sera de reconstruire ensemble un lieu ouvert d'organisation sur les terres menacées. Nous voulons faire de ce lieu un carrefour pour les opposantes.
Un point de départ pour de nouveaux habitats.
Une antenne pour organiser la résistance aux travaux à venir.
Les travaux de l'aéroport et ceux du barreau routier, première étape du projet, censés débuter en janvier.
Ils peuvent bien militariser la zone, ils ne nous empêcheront pas de nous y réinstaller. Héros Vinci, le message est clair, dégagez des terres.
Dégagez des terres.
Dégagez des terres.
Dégagez des terres.
Dégagez des terres. Deux fois.
Dégagez des terres.
On vous attend le samedi 17 novembre à 11h au départ d'un village proche de la ZAD
pour la manifestation de réoccupation.
Plus de détails
zad.nadir.org.
Bon, alors non, on n'aura pas notre camarade, tant pis, c'est dommage. Ça aurait été intéressant aussi de voir comment le projet il aurait pu être expliqué d'une manière politique, et puis de voir un petit peu comment ça intervient dans l'histoire particulière de Nantes et de la recomposition de cette ville auparavant industrielle, maintenant qu'il est évidemment de moins en moins. Et puis de que Gérald aurait pu nous expliquer également les jeux politiciens locaux qui vont certainement pas tarder à ressurgir à l'occasion de cette manifestation et puis de ce mouvement. Donc samedi il y a non seulement un enjeu en termes de lutte pour les habitants de cette zone et puis pour les paysans, donc essayer de réouvrir un maximum de lieux qui ont été soit fermés ou de reconstruire ce qui peut être reconstruit pour pérenniser l'occupation et continuer à occuper cet espace. Mais il va y avoir également aussi, moi je crois que ça va être le plus important, une question de nombre et de voir qui vient et combien on peut être pour être dans cette manifestation. Et alors de ce point de vue, il y a effectivement des choses qui sont intéressantes, puisque il y avait quand même eu un silence de la part du pouvoir sur ces 15 jours de résistance et 15 jours de mouvement à Notre-Dame-des-Landes. Et puis là, depuis quelques jours, on a commencé à y avoir quelques expressions. Alors d'une part, on l'a dit, parce que le mouvement dure et qu'il y a eu une ouverture par rapport à l'extérieur de la part des occupants. Et puis ça commence aussi certainement à gratter un peu le pouvoir, parce que cette histoire qui devait être réglée en 10 jours, ça commence à traîner. Alors on a eu des petites déclarations, notamment des déclarations de la part du ministre de l'Intérieur, alors j'ai retrouvé la phrase exacte, parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Des minorités agissant, des minorités venant de l'extérieur, rompues à la guérilla urbaine. Voilà, c'est exactement le terme. Donc on a ce nouveau truc de l'ultra gauche qui ressort. Bon, ça coûte pas cher et puis ça peut toujours servir, éventuellement créer une division entre les gens qui viendraient justement de l'extérieur pour être solidaires politiquement et puis ceux qui seraient là-haut. Malheureusement, je pense que pour lui ça intervient un peu tard, dans le sens où d'une part il y a déjà des gens qui habitent depuis 4 ans, depuis 5 ans même pour les plus anciens, et puis d'autre part maintenant ça fait déjà 15 jours que le mouvement, 3 semaines même que le mouvement a commencé, et du coup les minorités agissantes venues de l'extérieur, elles ont eu le temps de s'installer. Je pense que les minorités agissantes venues de l'extérieur, elles sont plutôt en bleu en fait, et elles sont plutôt casquées, quoi. Je pense que pour les gens du coin maintenant, la chose est faite. Alors bon, j'espère qu'on aura l'occasion de lundi prochain d'essayer de faire un retour sur cette manif, pour voir qu'est-ce qu'il en a été. Ici, je ne sais pas à Reims s'il va se passer quelque chose, mais ça serait effectivement bien que, bah, c'est pas très très difficile, mais un simple rassemblement ou même quelque chose peut être utile et ça peut servir, puisque on l'a dit, outre la question de l'aéroport et de l'aménagement des villes, tel qu'on peut le subir ici également à Reims, on a tout un tas de questions qui sont soulevées par cet aéroport, quoi. Bon, la préservation du bocage en est un. On me donne un papier, on se croirait aux 20h où il y a les gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un truc à l'Écluse le 17. D'accord, très bien, c'est bien d'être au courant, ouais, effectivement. Donc il y a une soirée de soutien. Non. D'accord. Il y a un rassemblement le 17 novembre à 14h, place Stalingrad. C'est là où il y a le bar, juste en face de la maison des métiers et de l'emploi, au bout. Très bien, voilà, ben, bravo. À 14h, donc samedi, pour les Rémois et tous ceux qui veulent, il y a donc un rassemblement à 14h, place Stalingrad, en solidarité avec les occupants de la ZAD. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant d'être assez grossièrement interrompu? Je voulais dire, il y a aussi toute la question des terres agricoles, toute la question du bocage, etc. Puisque ce qui se passe là-haut, outre le fait qu'il y a des gens qui collectivisent du maraîchage ou des potagers, qui essayent d'apprendre à vivre d'une manière différente et qui essayent d'être autonomes, de se nourrir, de vivre et de s'organiser autrement, il y a pas seulement ce qu'on pourrait effectivement penser, des gens qui viennent occuper pour vivre différemment et qui cherchent une alternative à la vie, il y a surtout des paysans. Et il y a beaucoup de paysans là-haut qui sont impliqués évidemment dans la lutte contre l'aéroport depuis bientôt 40 ans. Il y a même des fois plusieurs familles, voire même des générations, puisque c'est une histoire qui dure quand même depuis très longtemps. Et évidemment que cette question de l'aéroport, de leur expulsion et cette question de Notre-Dame-des-Landes, elle pose, de mon point de vue, la question des terres agricoles, quoi. Aujourd'hui, il y a l'équivalent, je crois, d'un département français, cinq départements, non?
Non, un département français qui disparaît
tous les 5 ans.
Tous les 5 ans.
Et non pas 5 départements français qui disparaissent tous les ans.
Alors là, j'ai dit,
ça serait déjà terminé, toi. Donc, non, mais c'est terrible quand même. Puis ça pose évidemment la question de l'approvisionnement, quoi. C'est bien évidemment très intéressant d'avoir des tomates en hiver, mais ça a des implications sur comment elles sont produites et l'état de la planète et l'état du territoire tel qu'on va le laisser, quoi. Bon, donc voilà, hein, je crois que malheureusement on va être obligé de s'arrêter là, on va passer à autre chose. On va s'écouter un peu de musique, on va essayer de faire une dernière tentative, on sait jamais. Et puis de toute façon on en reparlera de cette histoire. Donc samedi 17, 14h à Reims. Rendez-vous place Stalingrad. Alors la semaine dernière, on évoquait le cas d'extradition et l'arrestation d'Aurore Martin. On disait qu'il y avait une manifestation qui devait être prévue, qui s'est déroulée samedi dernier. Donc c'était une manifestation qui était prévue depuis plus longtemps, mais qui concernait tout de même la question des prisonniers. Faut le rappeler, il y a encore plus de 600 personnes qui sont actuellement détenues aux quatre coins de la France.
Non. Je te trompe. Il y en a 600, plus 600 en France ou en Espagne. Il y en
600 en France et en Espagne.
Non, au total. C'est-à-dire que il y en a 483 en Espagne et 137 en France. Hein.
Soyons précis.
Ça fait 620 prisonniers. Non, mais il faut
tout à fait. Et donc, la revendication, une des revendications, outre celle de la libération, elle est bien symbolisée par ces drapeaux que vous connaissez certainement, qui sont des drapeaux avec deux flèches qui déroulent à l'intérieur, qui vont à l'intérieur du Pays Basque, et c'est marqué Etxerat, donc à la maison, quoi, en fait, en basque. Et donc, la revendication principale, c'est un regroupement de ces prisonniers, tout du moins proche de leur famille.
Ouais, tout simplement. Alors, je crois qu'on a Gérald.
C'est pas vrai.
Non, oui. Non. On va l'avoir. Bon, d'accord. Alors on continue.
Bon, ça va être l'Arlésienne. Ouais. Grand suspense. Si vous le trouvez avant nous, vous avez gagné. Donc, y avait quand même au moins 5000 personnes, si ce n'est plus, puisque
15 000.
Toi, tu dis 15 000.
Même la police dit, au départ, la police disait 3 000, mais la police dit un peu moins de 15 000. Donc, effectivement, il y avait énormément de monde.
Alors, sur les images, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. En plus, il faisait dégueulasse à Bayonne ce week-end. Tant mieux, c'est normal. Il y avait chacune des familles qui se baladaient avec une photo d'un de leurs prisonniers. Et... aide-moi.
Vas-y.
Et donc, qu'est-ce qu'on disait ? On disait que oui, la manifestation était prévue depuis longtemps, mais qu'elle prenait évidemment un relief particulier avec le cas d'Aurore Martin, quoi. Certainement une commission d'enquête qui va être nommée, puisqu'il y a des députés verts et des députés du front de gauche du Pays Basque qui vont demander des explications à Manuel Valls et puis c'est pas très intéressant effectivement, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ne démordent pas sur le fait que non, il n'y a pas eu de coopération et que non, enfin il n'y a pas eu de coopération, il n'y a pas eu de consultation. Et que non, il n'y a pas eu d'indication spécifique donnée aux gendarmes pour pouvoir arrêter Aurore Martin. Donc affaire à suivre. Donc Aurore Martin, elle risque jusqu'à 12 ans de prison en Espagne.
Avoir parlé dans les meetings, faut-il le dire.
C'est ça.
Un
ouais.
Parti qui est reconnu en France, qui n'a pas de problème en France, mais qui est interdit en Espagne.
Alors c'est incroyable, nous avons Gérald au téléphone. Bonsoir Gérald. Comment ça va depuis tout à l'heure?
Très bien, j'ai été compléter mes informations en lisant un panorama de la presse quotidienne.
D'accord.
Où on parle beaucoup de Notre-Dame-des-Landes.
D'accord. Alors donc samedi, ouf, on va enfin pouvoir parler de la manif. Samedi, donc on a expliqué un peu l'objectif de la manif, l'objectif pratique qui était de reconstruire, et puis l'objectif politique qui était d'être le plus nombreux possible, large possible, varié possible, les habitants, les paysans, les soutiens extérieurs, pour pouvoir essayer un petit peu comme la manif du 24 mars à Nantes, essayer de faire de cette lutte là quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus gros, quoi.
Oui, tout à fait, c'est un sacré enjeu là qui se joue. Et en même temps, je trouve que à la lecture des différents articles, c'est une sacrée leçon de politique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Avec les relations notamment entre mouvement social et force institutionnelle qui essayent de se placer pour les canaliser et pour pouvoir traduire ça en impact sur la vie politicienne, quoi.
Ouais, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, après des semaines, voire même des mois de silence sur ce qui se passe, et puis là, depuis donc 15 jours, depuis le début de la lutte, il y a eu beaucoup de gens qui sont exprimés, notamment des institutionnels et notamment les Verts. Je pense à eux parce que on se souvient à quel point le porte-parole local des Verts avait pu dégueuler sur les occupants. Hein.
Tout à fait.
Et donc du coup tout le monde s'engouffre dans les brèches parce que bah ils sentent qu'il y a peut-être quelque chose à gratter, mais peut-être localement en tous les cas oui, mais qu'est-ce que tu en penses toi?
Alors bon, il y a deux phénomènes, il y a deux niveaux je pense de lecture, il y a un niveau local hein, sur le département, sur le terrain, et puis plus globalement au niveau politique et politicien, hein. Les deux termes sont proches, c'est pas pour rien. Je pense qu'au niveau local, déjà, ça a été vraiment cette offensive de la préfecture avec 1200 flics sur le terrain, ça a rapproché tout le monde, quoi. Hein. Ça a ressoudé tel le village d'irréductibles gaulois face à César. Tout le monde a resserré les liens. Il y a une solidarité logistique très forte. Les zadistes et ceux qui les soutenaient sur le terrain, qui avaient les pieds mouillés 24 heures sur 24, ont vu affluer des milliers de paires de chaussettes sèches, de pulls, d'imperméables, de bottes, d'anoraks de toutes sortes, de bouffe, de matériel divers et varié, de pharmacie. Enfin bref, ça c'est vraiment c'est une chose qui est vraiment bien. C'est aussi une chose qui a changé la configuration de la lutte, parce que jusque-là, si vous vous souvenez, la manif du 24 mars, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui s'était déroulée à Nantes, et puis après, à laquelle avait succédé la grève de la faim, ça avait été un verrouillage total de la lutte par le bureau de la coordination, hein, qui avait préparé sa grève de la faim dans le grand secret, et qui l'avait menée d'une main de fer, faisant succéder les agriculteurs, les anciens syndicalistes, les politiques, et qui avait conclu en secret, en catimini, au moment de la nomination de Jean-Marc Ayrault, un accord. Bon, ça, à mon avis, c'est fini, ça, parce que les trois semaines qu'on a vu s'écouler, là, face à l'offensive des flics, hein, et puis le préfet qui voulait commencer les travaux fin 2012, bon ben, la résistance sur le terrain des occupants de la ZAD a démontré qu'en fait, la démarche institutionnelle, interpeller les médias, faire des pétitions de toutes sortes, etc., ça ne suffisait pas, il fallait aussi avoir un rapport de force sur le terrain, et les ZADistes l'ont démontré. Et ça, à mon avis, la coordination pourra plus revenir là-dessus, pourra plus faire comme prendre en otage le pouvoir sur la lutte, quoi. Et il faut trouver une nouvelle formulation. Et c'est ça l'enjeu au niveau local, quoi. Ouais, alors, ça, c'est une première chose, quoi. Hein. Je pense que j'ai un peu explicité suffisamment clairement. Enfin, je sais pas, vous pouvez peut-être...
Ouais, c'est bon. Non, mais c'est clair. Hein. Effectivement, il y a des choses qui ont changé pour toujours au cours de ces trois semaines. Et d'ailleurs, il y a, je pense, des gens qui sont en train de découvrir dans la lutte, on le disait avec les intervenants qu'on avait auparavant, puisque tu l'as dit, il y a énormément de matériel qui arrive, qui est stocké dans un lieu qui est prêté par un paysan. Qui est une espèce de pôle de pôle central de là où on peut partir. Alors évidemment, en plus ce lieu il est chez un paysan, donc c'est vraiment super, puisque ça veut dire que les flics peuvent pas peuvent emmerder le paysan, bien sûr, mais ils peuvent pas intervenir dans ce lieu, et ça permet de développer des complicités, puis ça permet de, je dirais, former une espèce de communauté de lutte qui, même si elle existait auparavant, n'était pas forcément inscrite dans cette expérience de vie, dans cette expérience de lutte-là, quoi.
Alors, il faut se méfier, parce que chez un paysan, c'est y a tout, et il y a tout chez les paysans. C'est comme chez les ouvriers ou les cadres, il y a des gens pourris et il y a des gens bien, quoi. Bon, un paysan, effectivement, c'est pas n'importe quel paysan. Si c'est le lieu La Vacherie, c'est l'exploitation de Sylvain Fresneau, qui est un des principaux concernés par les expulsions, puisque l'entièreté, je crois, de son exploitation est sur la zone à défendre. Et donc, c'était le porte-parole de l'ADECA, l'Association des exploitants agricoles, et c'en était à un moment donné le vice-président, le président. Donc, c'est pas neutre, ce ouais. jeu de logistique, hein, parce que ça correspond aussi à un certain pouvoir de la coordination dans la lutte, quoi. Mais en même temps, justement, l'enjeu de la manif de la réoccupation, ça va être, notamment, je sais pas si le compte-rendu de la première assemblée générale de lutte a été diffusé, mais l'enjeu de la manif, c'est de reconstruire un lieu central politique. C'est-à-dire, bon, pourquoi préciser politique? Parce que justement, le collectif hors piste qui mène cette manifestation, hein, il la prépare depuis un an, eh bien, c'est de créer un lieu politique ouvert, qui ne soit pas un lieu justement que s'approprierait un groupe affinitaire, de zadistes, de squatteurs, quoi, mm-hmm. et qui après, dirait, ben voilà, c'est chez nous, maintenant, si vous rentrez, ben vous respectez nos positions. Donc là, ça serait vraiment un lieu politique. Donc c'est pour ça qu'il y a une maturation aussi politique à attendre de cette. De cette échéance là du 17 et qui est particulièrement intéressante parce que sur la ZAD c'est comme chez les paysans, il y a de tout. Il y a des squatteurs très politisés, il y a des gens qui sont là parce que bah ils ont une petite maison à la campagne qui est pas mal, hein, et puis après tout ben il y a des gens qui veulent récupérer des terres pour travailler les terres parce que c'est des paysans sans terre. Puis il y a des gens qui ont des positions assez il y a tout l'arc-en-ciel je pense de l'autonomie
de la contestation, ouais,
voilà ça. Bon, ça c'est un niveau. Et le deuxième niveau, à mon avis, qui se joue, alors là, à mon avis, bon, on peut peut-être plus en discuter, parce que c'est plus général, c'est la position de plus en plus en porte-à-faux des Verts, qui se retrouvent à cautionner le gouvernement Hérault, alors que leur ancienne secrétaire, qui est maintenant ministre du logement, Duflo, il y a un an, en 2011, avait fait une grande envolée lyrique en disant vous pouvez me regarder droit dans les yeux et vous verrez je m'opposerai jusqu'au bout à l'aéroport, et elle a démontré que un simple portefeuille de ministre suffisait à ramollir sa détermination, et donc ces mêmes Verts, bon, c'est quand même les seuls alliés un peu crédibles dans le gouvernement Hérault, quoi, qui élargit un peu l'assise du gouvernement. Et donc, ils sont de plus en plus en porte-à-faux entre le terrain et puis le gouvernement. Et je pense aussi qu'il y a probablement un souterrainement des rivalités internes au PS qui jouent en faveur de la lutte, parce que, bon, quand on voit la couverture médiatique qui s'élargit d'une façon remarquable, actuellement, bon, il y a... passé rapidement dans un kiosque, j'ai vu, bon, il y a des articles, bon, dans le Canard Enchaîné, ça c'est pas nouveau, mais enfin, ils annoncent la manifestation, il y a des articles dans Politis, vendredi il y avait un article en première page, il y avait une photo en première page du Monde, jeudi il y avait un article dans Libération, il y a vraiment, l'ensemble des médias parlent de Notre-Dame-des-Landes, et alors ça c'est quand même, je pense que ça révèle que derrière il y a... Il y a quand même probablement des gens qui aimeraient bien que le gouvernement Hérault chute là-dessus, quoi.
C'est vrai. Alors, faut quand même aussi reconnaître un mérite, c'est qu'il y a eu un vrai boulot fait à Notre-Dame et puis ailleurs, puisque outre le fait d'action de solidarité, il y a également eu régulièrement des gens qui appelaient les rédactions, les radios, etc. pour parler de ça, quoi, en justement mettant en avant le fait que voilà, si on n'en parlait pas, c'était peut-être parce qu'il y avait eu des consignes. Mais bon, tu as raison, je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Bon, en ce qui concerne du flow, à moins que il n'y a rien de surprenant, hein, c'est une liste du logement qui expulse, pardon, à Paris, dans l'espace où elle a été élue députée, dans l'arrondissement où elle a été élue députée, pardon, des squats, et puis qui nous fera refaire le coup cette année encore de la réquisition, pardon. Donc elle est toujours dans cette espèce de va-et-vient, quoi, entre une espèce de pseudo-radicalité, mais quoique, encore, même pas en tous les cas dans les discours, mais dans les actes, il y a aucun problème, c'est une politicienne de première catégorie. Par contre, ce qui va être délicat, c'est pour vous, c'était quoi la position des Verts à Nantes et aux alentours?
Alors, il faut bien voir l'actuel porte-parole de Europe Écologie Les Verts, Magnin, il est de Nantes, et il y a un an, il s'est exprimé violemment contre les ultras, ces occupants qu'il faudrait dégager de la lutte, quoi, qui sont très gênants, quoi. Et manque de bol, maintenant, c'est ces mêmes occupants qui portent la lutte à bout de bras nuit et jour, et donc ils sont, à mon avis, ils seront dans une position très très inconfortable. Et je pense pas qu'ils vont oser venir avec des drapeaux le 17. faite, parce que Sylviane, de toute façon, il y a déjà des gens de la ZAD qui ont annoncé qu'ils se mobiliseraient spécialement pour les faire disparaître. Donc, les drapeaux, bien sûr. Je précise. En tout cas, ça prouve bien quand même que ça a drôlement maturé dans la tête des gens, quoi. Hein. C'est ça. Après, il y a aussi des tensions, je crois, à l'intérieur des Verts. Hein. Je pense que il y a des petites phrases qui passent et puis où on sent bien qu'il y a des gens qui aimeraient bien prendre la place du calife. Mais ça, c'est un peu un épiphénomène du processus de démocratie parlementaire, hein, enfin du pouvoir tel qu'il se joue actuellement, tel qu'il se gère, quoi, puisque l'élément déterminant, c'est quand même la résistance à la base. Hein. Mmh. C'est quand même ça qui fait que toutes ces forces se mettent en mouvement. Et après, l'intérêt aussi, c'est que ce qui serait fort, c'est que cette lutte puisse élargir la remise en cause des grands projets d'aménagement du territoire. Hein. Alors, il y a les gens qui animent la lutte anti-THT dans le Cotentin. Ils ont appelé à venir le 17 à Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est vraiment fort, puisque bon, c'est une contestation du nucléaire et de son monde qui vient soutenir le refus de l'aéroport. Je crois qu'il y a aussi d'autres composantes qui bataillent contre les lignes à grande vitesse qui devraient être là.
Ouais, il y aura forcément des gens du Val de Souza. Et puis on avait dit ici, on avait noté que lors de la grande manif qu'il y avait eu contre la LGV au Pays Basque, la HT, il y avait des signes de solidarité avec la lutte de Notre-Dame.
Ouais. Alors il y a aussi, il n'y a pas que les Verts aussi qui vont essayer de faire leur beurre sur la lutte, c'est aussi le parti de gauche. Et là, ça va être plus délicat, puisque, bon, d'une part, ils ne sont pas au gouvernement. D'autre part, Françoise Verchères, qui est une figure emblématique de la lutte, puisqu'elle a renoncé à son mandat au Conseil régional en opposition au projet d'aéroport, ce qui est quand même à noter. Avant, elle était maire de Bouguenay, elle se retrouve simple conseillère municipale. Et elle est au parti de... Comment dire,
au PC.
Au parti de Mélenchon.
Au PG, ouais. Parti de gauche, ouais.
Parti de gauche. Et donc, Mélenchon a annoncé sa venue. Et lui aussi, il va essayer de se placer un peu. Bah, c'est un peu comme Alain Beaumont, hein, quand il se présentait face à Marine Le Pen. Hein, il va essayer de faire son beurre en essayant de surfer sur la.
Ah, mais il y a quand même un gros hiatus. Bon, on répète, pardon pour les auditeurs, mais premièrement, il y a des composantes à l'intérieur de son front de gauche, comme le PCF, qui sont totalement pour l'aéroport, il n'y a pas de problème.
Pas unitaire.
Pas unitairement ?
Non.
Mais de toute façon, lui, il n'a jamais pris position publiquement, à ma connaissance, contre le projet d'aéroport.
Si, il a fait un meeting à Nantes, au Zénith de Nantes, et il a demandé un moratoire pour une remise à plat des études, tout ça, quoi. Ce qui a fait beaucoup grincer des dents... le PC de Loire-Atlantique, mais qui a particulièrement réjoui le PC de Vendée et le PC du Morbihan qui sont contre l'aéroport.
Ouais.
Donc le PCF commence à devenir un vrai bordel, puisque bon, il n'y a plus une seule position unitaire maintenant, chaque département a sa position. C'est la décomposition finale.
malheureusement, le risque est que s'il y a effectivement tout ce panel-là, tous ces gens qui descendent, ces politiciens professionnels, ils risquent d'y avoir peut-être une canalisation, comme tu disais, et le risque, ça peut être que les gens qui luttent, même si ça m'étonnerait, moi j'y crois pas trop, mais s'en remettent à eux, quoi.
Alors, ça va pas se passer au niveau de la lutte du terrain. Mais ça, le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on élargisse cette résistance. Parce que dans les jours après le 17, quand le lieu de la lutte sera reconstruit, il faudra le défendre. Et il faudra défendre les autres lieux, quoi. Et là, il s'agira plus de faire des ronds de jambes devant les caméras. Il s'agira d'organiser la résistance et la solidarité. Et puis de faire payer cher les conséquences des attaques des flics, quoi. Mais bon... c'est le problème, c'est que les gens qui sont contre ce projet et qui habitent à 50, 100 ou à l'autre bout de la France, quoi, à la limite, ils risquent de faire confiance à des gens comme un Mélenchon qui se pointe et qui va parader sur le terrain devant les médias, quoi.
Ouais.
Et ça, le problème, c'est que c'est une faiblesse du mouvement actuellement, où, à part le collectif hors-piste et quelques individus, ce que je disais au début de l'émission, c'est que il y a beaucoup de zadistes qui ne voient pas l'enjeu de porter un positionnement politique compréhensible auquel les gens peuvent se raccrocher, quoi. C'est dans l'implicite, quoi. Les gens sont sur les barrages, ils font des barricades le nuit et le jour, ils sont 24 heures sur 24 sur la brèche, mais il faut qu'ils rendent leur action audible et compréhensible. Et manifestement, c'est réservé aux initiés, quoi. Il y a des textes d'analyse qui sont justes, hein, qui sont intéressants, mais il faut un bagage politique pour le décrypter. Et ça, à mon avis, bon, peut-être que c'est ça qu'il faudrait mettre au point d'ici samedi pour vraiment avoir un positionnement clair, intelligible et pertinent.
Comment ça se passe par ailleurs? Comment vous fonctionnez, hein?
Ah, mais c'est un roman.
C'est délicat. Il y a quand même des tentatives d'assemblée générale. Les choses sont discutées. C'est difficile.
Alors, ce qui est bien depuis l'offensive des flics, c'est qu'il y a des assemblées de lutte qui se réunissent une fois par semaine avec des commissions qui travaillent sur notamment sur chaque aspect de la mobilisation du 17. Et ce que j'espère, moi, c'est que cette assemblée de lutte va continuer à fonctionner au-delà du 17. Et ça va être un lieu politique où justement ça sera plus verrouillé la lutte ne sera plus verrouillée par un bureau de la coordination qui décide à une toute petite poignée de gens. Hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause leur sincérité, hein, et leur intégrité, mais il s'agit de parler de fonctionnement interne, des prises de décision et donc de sensibilité politique aussi. Hein. Par exemple, quand on voit une figure emblématique comme Michel Tarin, celui qui a fait la grève de la faim pendant 28 jours, là, c'est un agriculteur à la retraite, qui était ancien paysan travailleur, tout ça. Mmh. Dans les médias, là, je disais dans Politis, qu'il disait que, les encagoulés comme les membres de partis politiques ont tous leur place le 17 à la manifestation.
Est-ce qu'on peut être membre d'un parti politique et encagoulé en même temps?
Ah ben ça, je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est bon.
Bon, c'est la réunion de deux ensemble 10 juin.
Voilà.
Oui. Alors, il y a un gros problème quand même, c'est qu'ils veulent, il y a une certaine partie de la coordination qui veut deux cortèges. Sous prétexte qu'il y a beaucoup de bus qui sont déjà prévus, il y a une cinquantaine de bus déjà qui sont annoncés, sous prétexte que les faire stationner au même endroit, ce sera compliqué, donc il parlait de faire deux cortèges. Et là, on est un certain nombre à penser que c'est vraiment une grosse arnaque, parce qu'en fait, ils vont sûrement essayer de faire un cortège avec l'association, on la cite pas, quoi,
c'est clair.
L'association citoyenne, avec notamment les têtes d'affiches médiatiques et les médias. Et puis l'autre, ça sera les porteurs de valises, quoi. Ça sera les petites mains qui porteront les maisons en kit à reconstruire. Et ça, je crois qu'il n'en est pas question. Et d'ailleurs, la commission d'organisation de la manifestation a déjà dit non, que ce n'était pas possible. Donc d'ores et déjà, le seul point de départ, ça sera Notre-Dame-des-Landes.
D'accord. Tout à l'heure, avant que tu arrives, j'ai lu à l'antenne un appel à la mobilisation de la Confédération paysanne.
C'est très intéressant.
Ah oui, c'est super intéressant d'ailleurs, étonnant. C'est surtout apparemment des jeunes de la conf qui ont fait ça. C'est d'ailleurs signé par les groupes jeunes de la Confédération paysanne. Sur place, ça signifie quoi ce type de regroupement et d'appel?
Alors c'est sûrement des gens qui piaffent un peu par rapport au verrouillage dont je parlais là, et qui ont envie de passer un peu à la vitesse supérieure. Le texte est quand même, je trouve, très intéressant.
Oui, à part le citoyennisme qui apparaît de temps en temps.
Mais ça, bon. Citoyennisme, c'est... Oui.
Ouais, maladie des luttes, ouais.
Ouais, ça a été tellement rabâché depuis 15 ans, le citoyennisme, que ça finit par rentrer avec l'altermondialisme. Et maintenant, c'est quasiment... C'est difficile d'en sortir, quoi. Mais c'est des gens qui bataillent déjà sur le terrain. Hein. Je discutais avec un copain paysan là il y a 3 jours et il me disait que dans les réunions de solidarité avec les paysans en difficulté, tout ça, etc. Actuellement, il y a un vrai réveil. Hein. Avant, il était moins de 10 dans les réunions. Là, il se retrouve à plus d'une trentaine. C'est peut-être anecdotique, mais c'est un signe. Hein. C'est un signe qu'il y a ça, dans les campagnes, là, c'est en train d'une effervescence, quoi. Hein, c'est les jeunes de la Confédération paysanne qui n'ont pas envie de se retrouver un peu encadrés par les anciens qui ont participé à la gestion de la chambre d'agriculture.
Ouais, c'est ça, on leur apprendique. Hein.
Voilà, et les jeunes, ils n'ont rien à foutre de gérer la chambre, quoi. Et ils sont plutôt pour essayer de développer une capacité offensive, quoi.
Ouais. Et ils posent vraiment bien le problème de la terre, quoi.
Oui, oui, oui. Parce que en Loire-Atlantique, il y a vraiment un manque de terre pour les gens qui veulent en vivre, quoi. Alors que bon, les autres s'apprêtent à bétonner pas loin de 2000 hectares, quoi.
Ouais.
Nous étions combien le 24? On était 5 à 6 000 dans les rues de Nantes.
Le 24, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même 200 tracteurs, mais c'était plutôt, bon oui, 7 000 quoi.
Ouais, c'est
bon, c'est compliqué parce que bon, quand on est arrivé à la fin, les gens avaient commencé à terminer leur discours et à s'apprêter à démarrer. Alors,
Ouais, c'est vrai.
Mais il faut noter quand même qu'il y a eu une manif samedi, là, dernier, samedi 10. À Rennes, et qu'il y avait entre 3 et 3500 personnes, et que ça, c'est quand même bon, ça. Il y avait une centaine de tracteurs, notamment, et c'est quand même la première fois qu'il y a une aussi grosse manif dans une autre ville que Nantes, contre l'aéroport. Et ça montre qu'il y a vraiment une audience de la lutte qui est pas négligeable, quoi.
Ouais, tout à fait, hein. Il y a beaucoup, tu étais absent cette semaine, mais ça a vraiment été, je te le disais, il y avait encore des reportages cet après-midi sur la chaîne de radio nationale. Donc l'objectif c'est quand même d'être aussi nombreux, hein, au moins, si ce n'est même plus.
Je crois que on va être plus nombreux. En plus de ça, il y a un phénomène nouveau dans cette manif, ça a lieu déjà depuis longtemps, mais c'est plus les manifs des années 90-2000, quoi. Là, la mobilisation se fait beaucoup plus par Internet, j'ai l'impression. Et il y a un secrétariat, carrément, qui a été constitué, quoi, parce qu'il y a plus d'une centaine d'appels, de mails, via Internet, de gens extérieurs à la lutte, qui ont envie de s'y raccrocher, et qui ont envie de participer. Donc ça, c'est un signe, quand même, que, bon, il y a vraiment une audience, il y a vraiment une volonté, il y a une effervescence, quoi. D'autre part, dans les commissions qui ont été créées, il y a plein de gens nouveaux, de Nantais, qui ont adhéré à la préparation. Et ça aussi, c'est un saut qualitatif, parce que nous, ça faisait déjà plus de 4-5 mois qu'on essayait au comité nantais contre l'aéroport de faire des manifs mensuels pour essayer de lancer ça, quoi. Et donc, ça a l'air de se réaliser. La dernière manif mensuelle qui a eu lieu fin octobre, là, il y avait 800 personnes. Ce qui est quand même un saut, quoi, parce qu'avant, on était une petite centaine, quoi, et là, plac. Donc il y a plein de signes encourageants pour que le 17 soit vraiment une réussite et que la suite vaille vraiment la peine d'être vécue.
Super.
écoute, quitte pas, on va te reprendre hors antenne et puis nous on va écouter de la musique. On va écouter l'Arcousi.
Yeah. libertà, si l'allarma già libertà.
C'è chi, e na che c'è a, ora di vini, carra mi dea, ora i curecchine rianezza, e stu, se stu, a scattasso ne da.
Peut-être vous parler un petit peu de nouvelles rapides, puisque je crois qu'il nous reste que 5 minutes, à moins que tu aies quelque chose... Moi, j'ai à dire un truc à dire, c'est en Belgique, ça se passe, où effectivement, il y a des gros problèmes au niveau de centrales nucléaires. Alors, vous savez que la Belgique a décidé de fermer ses centrales, ses 7 centrales, d'ici 2025. Mais les centrales qui sont prévues, qui devaient fermer, qui doivent fermer en 2022, et en 23, les centrales de Tihange ont des gros problèmes puisqu'ils viennent de découvrir un certain nombre
de fissures
qui existeraient donc aussi bien au niveau du béton que au niveau du métal, qui fait que ces centrales nucléaires vont peut-être fermer avant, surtout si les gens se mobilisent, enfin on l'espère. Voilà. C'était donc ce qui se passe en Belgique.
Alors, simplement, pour revenir au nucléaire en France, il y avait sur la centrale de Nogent, vous savez qu'il y a des interventions décennales pour refaire un certain nombre de choses au niveau de la centrale. Ces travaux devaient durer 2 mois. En fait, ils ont duré plus de 4 mois, puisqu'il y a eu 3 incidents pendant les travaux, donc ce qui a retardé. Là, elle a été coupée il y a un peu plus d'une semaine, elle a été recouplée au réseau, et maintenant c'est la tranche 2 qui doit faire l'objet de cette deuxième visite décennale, et donc on va voir ce que ça va donner, puisque bon, voilà. Et puis l'autre chose, c'est au niveau Hollande a annoncé la fermeture d'une centrale en France, et Fessenheim, et que apparemment donc sa date de fermeture est prévue en 2016, sachant que ça va être la période électorale pour les présidentielles de 2017, que on peut toujours revenir sur une histoire de fermeture, et que apparemment sur les pros, ceux qui ne veulent pas de la fermeture de Fessenheim, en particulier la CGT, et sont en train de batailler dur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fermeture de Fessenheim.
Un dernier mot, puisqu'on parle de nucléaire. Le nucléaire, il est en couverture de l'excellent journal, l'excellent mensuel anarchiste communiste Courant Alternatif, 224 de son état, déjà, que ça passe, dans lequel il y a une douzaine de pages qui reviennent sur un petit peu où en est la lutte antinucléaire, les prémices de ce qui pourrait peut-être déboucher sur un mouvement, même si avec dont on a parlé, hein, Valogne, Montabo, la THT, etc. Puis également un retour sur Notre-Dame-des-Landes. Et il y a 2 articles, moi, que j'ai trouvé particulièrement intéressants. D'une part, une analyse du projet de Capécure 2020, qui en fait, on parlait d'exploitation des champs, et l'exploitation des zones agricoles avec Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi l'exploitation de la mer, où il y a des enjeux très importants, et il y a donc un projet, une plateforme européenne de transformation des produits de la mer, donc Capécure 2020, là. qui démontre bien les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Et puis également un article très intéressant sur la dette et sur une approche originale de la question de la dette, puisque l'auteur, c'est une interview hein, d'un anthropologue,
ouais.
Se propose d'aborder le problème de la dette non pas dans un point de vue économique et comptable, même si bien évidemment il en parle aussi, mais d'un point de vue de relations de pouvoir et de construction de la société et des relations sociales. Donc ça apporte un regard plutôt novateur sur cette question de la dette.
Ouais, surtout qu'il le prouve. Et que la dette ainsi que les emprunts étaient bien antérieurs au capitalisme, puisqu'on en parlait dans les années 3000 ans avant Jésus-Christ.
Alors,
et contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'était pas le troc à cette époque-là. Il y avait des histoires encore de dettes déjà, d'emprunts et de dettes.
Alors pour vous fournir cours alternatif, c'est comme d'habitude, vous nous écrivez Allegre Gore, boîte postale 12 13 51 058 Reims Cedex, et on vous fera le plaisir de vous en envoyer un numéro.
Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous en...
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Allegre Gore, une part anarchiste communiste. Chaque semaine, sur l'Écho des Guerriers de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site OC Libertaire.